Il est 19h, presque 22.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
C'était donc il y a un an, quasiment jour pour jour, l'acte 1 des Gilets jaunes. On l'a peut-être un petit peu oublié, mais ce mouvement, il commence à monter au moment des 80 km/h et il prend forme sur cette fameuse taxe carbone qui jette des centaines de personnes sur les ronds-points. De là, autour de ces gens qui se retrouvent et partagent ensemble, qui découvrent aussi parfois ensemble qu'ils ont les mêmes fins de mois, naissent les débats sur les fractures de ce pays, sur le sentiment de déclassement, sur les oubliés du système. Autour de ces ronds-points naît aussi cette idée d'une France rurale contre une France urbaine, d'une France qui a accès à toutes les infrastructures contre une autre qui va chercher un hôpital à 80 km/h ou un train à 25 km/h quand on n'a pas supprimé les maternités ou les petites lignes, une France oubliée du politique. Les Gilets jaunes, c'est aussi un mouvement sans leader. Ceux qui ont émergé n'ont jamais fait l'unanimité autour d'eux. Un mouvement parfois qualifié de violent qui a suscité en tout cas la sidération après des épisodes comme l'Arc de Triomphe ou le Fouquet. Un mouvement qui a montré aussi parfois des errements policiers. Les Gilets jaunes, c'est enfin une claque politique pour Emmanuel Macron, un arrêt au stand brutal quand les réformes s'enchaînaient sur les chapeaux de roue. Il a fallu écouter mieux, il a fallu ralentir, peut-être aussi changer de ton. Et on y viendra. Alors les Gilets jaunes aujourd'hui, c'est quoi? Vous aviez été extrêmement nombreux à nous appeler à la même époque. Vous êtes encore très nombreux ce soir et merci beaucoup. Vous nous appeliez depuis vos ronds-points. Eh ben, rappelez-nous et racontez-nous, vous en êtes où? La politique, les municipales, les manifs, le 5 décembre, ce que vous êtes aujourd'hui, ce que vous faites, ce que vous avez fait avec votre gilet jaune. Et c'est à vous de jouer.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Annie, c'est vous la première. Soyez la bienvenue Annie et bonsoir.
Oui, ben bonsoir et merci beaucoup de me recevoir. C'est très sympathique à vous. Alors justement, je vous ai appelé parce qu'on était en début de réunion et j'ai entendu votre émission. Et je trouvais intéressant, puisque là vraiment on était dans l'action, on est tous réunis avec les services publics, la trésorerie, il y a des pompiers, il y a un professeur des écoles, plusieurs services publics et on essaye de changer un peu les choses puisque maintenant il y a vraiment une casse systématique de tous les services publics. Alors, je ne vais pas vous faire la liste de tout ce qui ne va pas. Je pense que vous êtes assez au courant. Et donc, là, pour le coup, il y a vraiment une convergence qui se passe. Donc, moi, je suis dans un petit village des Cévennes, à une demi-heure de Nîmes. Et nous, on est vraiment dans un territoire rural. Donc, on est en train de rédiger, en fait, de réfléchir ensemble pour pouvoir déjà rédiger un courrier à notre député. Que bon, on sait très bien que le fait de démolir les services publics, c'est l'abandon des services publics dans un territoire rural. Ça touche principalement les personnes les plus fragiles, les personnes âgées qui ne savent pas utiliser l'informatique, et ainsi de suite. Voilà.
Et Annie, donc là, on est en... Et alors, vous êtes en réunion, j'ai bien compris, c'est intéressant d'en parler avec nos invités. On a l'impression de revenir un an en arrière au moment des grands débats et des réunions de ce type. Moi, j'ai juste une question subsidiaire avant qu'on lance le débat. Votre engagement, est-ce qu'il a changé? C'est-à-dire, par exemple, est-ce que vous vous dites, il faut que je rentre dans l'associatif à minima ou il faut que je me présente sur une liste municipale? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça désormais dans votre engagement, Annie, par rapport au point de départ l'année dernière ou pas?
Non, moi ça a beaucoup évolué. Hein. Moi, je suis arrivée sur les ronds-points vraiment l'année dernière, le 17, et j'y suis restée toute l'année. On est resté tout l'hiver, même l'hiver. Hein, donc, on a eu la chance de pouvoir rester presque jusqu'au mois de mars. On a changé plusieurs fois de ronds-points, mais on est resté jour, nuit sur les ronds-points et ça a donné des énormes échanges très intéressants avec les gens, les citoyens, tous les bords politiques d'ailleurs. Hein. C'était très, très, très intéressant. Et non, l'évolution en fait, c'est qu'on a trouvé des outils, on a développé des outils de communication entre nous, de sincérité surtout. Je pense que le grand truc, c'est la sincérité et l'humanité, hein, qui est vraiment le slogan là pour l'anniversaire des Gilets jaunes, c'est de dire ça fait un an que je vis. Voilà. Donc c'est vraiment un souffle de vie des gens. Et donc c'était pas évident parce que là, on n'était pas du tout dans la politique vraiment avant. Et là, c'était trop. Bon. Donc pendant un an, on a fait beaucoup de choses. On a rédigé un petit journal qu'on a appelé Le Mouton Rebelle. On a vraiment les gens se sont mis à lire un maximum d'articles, des réunions, des discussions. Donc on a évolué. On a évolué avec même des monnaies libres. On a évolué sur des échanges d'agriculture. Bon, évidemment du bio, c'est évident, mais des AMAP.
En tout cas, et pardon de vous interrompre Annie, parce qu'il faut qu'on, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. En tout cas, ce que j'entends chez vous, c'est donc vous êtes restés ensemble, vous avez fait des choses ensemble, mais il y a pas un engagement au-delà qui serait une forme d'engagement politique, même à votre niveau et avec votre gilet jaune sur les épaules, en fait.
Alors, il y a un engagement politique. Non, il y a un engagement politique, mais c'est pas celui qui existe.
D'accord.
C'est-à-dire, c'est vraiment une restructuration réelle de la politique où, effectivement, le vivant, déjà, hein, avec l'écologie, évidemment, hein, le vivant est l'acteur principal et la politique est à la disposition, entre guillemets. Enfin,
vous avez raison, politique avec un grand P, en fait, ce qui n'a rien à voir avec les partis.
Une honnêteté. Mais tous les gilets jaunes ont vraiment un mouvement politique. Ils ne se mettent pas ensemble sur une liste parce qu'ils refusent la politique qui est en place et qui est vraiment une tromperie. Qui est devenu vraiment...
On a bien compris ce que ça voulait dire politique, effectivement, et au sens citoyen. Merci beaucoup, Annie, pour cette entrée en matière. Merci de nous avoir raconté un peu votre quotidien pour engager ce débat, parler ensemble jusqu'à 20h. Yvan Lubraneski est là, bonsoir. Vous êtes le maire des Molières dans l'Essonne. Vous êtes président de l'association des maires ruraux de l'Essonne. Et si on a voulu vous réentendre, c'est aussi parce que vous avez participé à beaucoup de téléphones à cette époque-là. Donc on en a entendu ensemble des Annie aussi qui ont pu appeler. Et bonsoir Jérôme Fourquet.
Bonsoir.
Vous êtes l'analyste politique qu'on connaît, directeur du département opinion et stratégie de l'IFOP. Vous avez écrit L'Archipel français l'année dernière au Seuil. Et vous aussi, Jérôme Fourquet, vous êtes arrivé de venir ici et d'écouter ces choses-là. Et c'est pour ça que ça nous intéresse vraiment ce que dit Annie. Je vous salue au passage, Yael Gauze, du service politique de France Inter. Moi, ce qui me frappe, Jérôme Fourquet, je commence avec vous, c'est que, effectivement, c'est le même engagement, mais ça dit exactement la même chose. Annie nous dit quelque chose qu'elle aurait pu nous dire en décembre ou en janvier si elle avait appelé au téléphone sonne, en fait.
Alors oui et non. Alors sans être ventriloque, je connais pas Annie. Elle a commencé par parler des services publics. Alors que ce mouvement, initialement, il est sur un refus de la taxe. Et donc il y a une relation à l'époque, hein, même s'il était très très divers, ce mouvement assez ambigu vis-à-vis des services publics. C'est-à-dire qu'on en demandait beaucoup, mais on disait que l'État était trop taxateur et prenait trop. Et donc moi, ce que j'ai entendu, c'est que ceux qui restent aujourd'hui gilets jaunes cheminent quand même, et c'est bien normal. Ça fait un an qu'ils réfléchissent tous ensemble, et le discours qui est là me paraît assez en phase avec ce que un certain nombre de représentants des gilets jaunes ont annoncé il y a quelques jours ou semaines. Dans le sens où ils allaient rejoindre l'appel à la grève
pour le
5 décembre. Et donc on voit qu'on est déjà sur une certaine forme d'élargissement du combat, et que aujourd'hui c'est la défense des services publics à la française, alors ce qui s'entend bien dans des territoires ruraux, qui monte en puissance, alors que cette tonalité, de mon point de vue, était moins présente, en tout cas au début du mouvement.
Mais est-ce que ce sont les gilets jaunes qui rejoignent un mouvement qui allait repartir pour le 5 décembre, ou est-ce que c'est à l'inverse? Ça marche dans quel sens, en fait, à votre avis, Jérôme Fourquet?
Pour l'instant, si on regarde la chronologie, c'est plutôt les organisations syndicales...
Qui se raccrochent aux gilets jaunes?
Non, pas n'importe lesquelles, celles de la SNCF et de la RATP.
D'accord.
Qui ont posé cette date.
D'accord. La RATP d'abord, de la SNCF effectivement.
Ensuite, et donc ensuite les gilets jaunes, en tout cas le collectif qui s'en réclame, se sont accrochés à ça. Les syndicats avaient essayé d'embrayer pendant le conflit des gilets jaunes, et ça n'avait pas marché. Là, ça se passe dans un autre sens.
C'est pour ça que je vous pose la question, parce qu'on a vu aussi que ces derniers moments, une mobilisation seule des gilets jaunes fonctionne moins. En tout cas, donc on peut plus être tout seul quand on est gilet jaune désormais dans la rue, en fait.
C'était manifestement, et comme on a le souci du service public, eh bien, on peut se raccrocher à ce mouvement du 5 décembre, qui, on le rappelle, hein, et vise la réforme des retraites. Qui est un élément qui peut fédérer très largement. En novembre dernier, c'était l'essence, la taxe, et donc seul, mais c'était beaucoup de monde, les gens qui étaient très dépendants de la voiture étaient aux premières loges. Là, les retraites, c'est potentiellement beaucoup plus fédérateur comme mot d'ordre.
Yvan Lubraneski, qu'est-ce qui se passe sur vous, chez vous, aux Molières ou ailleurs, sur les ronds-points, même si c'est plus sur un rond-point, on est d'accord, mais est-ce que vous avez le sentiment de rencontrer, vous, dans votre pratique de maire, beaucoup d'Annie, comme celle qu'on vient d'entendre, désormais en tout cas, peut-être plus qu'avant?
Ce que je crois, c'est que les fractures territoriales, les fractures sociales, qui sont les causes profondes, à la fois du mouvement des Gilets jaunes et puis d'autres mouvements qui sont susceptibles de surgir dans les années qui viennent, elles n'ont pas changé. Il faut se rappeler que nous, les maires ruraux de France, en septembre 2018, à 2 mois du début du mouvement des Gilets jaunes, on prend une motion en Congrès national qui s'appelle « Appel à la révolte ». C'était des mots forts hein, à cette époque-là, et c'était 2 mois avant. Et on partait d'un constat de fracture territoriale, du fait que les maires dans les communes, les conseils municipaux, et donc au-delà aussi les citoyens, se trouvent dans des situations parfois abandonnées, ou en tout cas avec très peu de prise sur des décisions qui se prennent de plus en plus loin, en fait. Hein, c'était ça le sujet. Et là-dessus, pour l'instant, on ne voit pas concrètement, dans l'action du gouvernement, un changement de braquet, et puis surtout des éléments concrets sur les territoires, parce qu'on a continué. On a continué cette casse des services publics, cette fermeture des hôpitaux, etc. etc.
Yael Gauz, on a le sentiment que... alors c'est compliqué de savoir... Alors il y a eu 17 milliards, hein, d'abord, concrètement, sur la table, il y a eu 17 milliards demi. Après, c'est toujours difficile de savoir exactement où ces 17 milliards atterrissent. Il y a eu quand même un changement de ton, paradigme. Enfin, je disais tout à l'heure que c'était une claque politique considérable quand même pour Emmanuel Macron, cet épisode-là, Est-ce qu'il en a tiré des leçons ?
Oui, il disait au Time récemment, les gilets jaunes ont été très bons pour moi parce que cela m'a rappelé comment je devais être. Et puis à nos confrères d'RTL, il disait, j'ai entendu, compris, senti dans ma chair ce qu'ils veulent. Voilà, donc il y a comme des moments de spasme très forts, j'ai cette cicatrice que je me frotte régulièrement. Voilà, il en parle comme ça, comme une scarification politique qu'il a vécu, comme un apprentissage accéléré aussi peut-être de la relation qu'il devait avoir avec ces fameux corps intermédiaires, trop négligés au début, dans sa phase jupitérienne qu'on appelait comme ça. Il y a eu un acte 2, ça a été théorisé comme ça par le gouvernement. Discours de politique générale d'Édouard Philippe mi-juin, après les européennes, c'est l'acte 2 qui est censé commencer avec ce mélange entre humanité et efficacité. Alors ça, ce sont des mots. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on avait compris fin août, début septembre, vers quoi allait cet acte 2, et puis aujourd'hui, avec la réforme des retraites qui se profile et se floue au plus haut niveau, on ne sait pas encore dire quelle sera cette réforme des retraites, eh bien il y a une inquiétude qui monte. Et donc ce paradoxe entre un Macron qui dit « je veux garder l'énergie vitale de la transformation du pays » avec plus de patience et d'écoute. Est-ce que c'est compatible entre les deux ? Comment il jongle entre les deux ? C'est tout le défi aujourd'hui.
Allez, on n'oublie pas qu'il y a des auditeurs au téléphone sonne. Bonsoir Jean.
Oui, bonsoir, merci de me donner la parole. Moi, ce que je voulais dire dans mon intervention, c'est que le mouvement des Gilets jaunes est un échec pour moi. Je suis retraité depuis 2011, je suis allé sur les ronds-points pendant pas mal de temps, et puis on a commencé à voir dans les ronds-points des choses qui allaient amener et engendrer cette violence. Ma grosse déception est par rapport à nos différents leaders, ceux qui se sont proclamés à droite, à gauche, et qui finalement ont été incapables de fédérer ce mouvement qui prenait de plus en plus d'ampleur et qui était des plus logiques. À côté de ça, ce mouvement, eh ben, il s'est essoufflé parce que je le compare au jeu du cirque avec Jules César, où on distribue du pain, des distractions. Monsieur Macron, il a balancé quelques petites miettes, et finalement, tout le monde était content, tout le monde s'est tu. Et à côté de ça, on s'aperçoit d'une chose, c'est que nos politiques, eux, continuent à diriger de la région parisienne, continuent à s'octroyer des versements supplémentaires, etc. etc.
Je ne sais pas si tout le monde était content à l'issue de ces milliards-là. Jean, merci beaucoup. Pardon de vous interrompre pour qu'on puisse poursuivre. Merci en tout cas pour votre intervention. Ce que nous dit Jean, c'est intéressant, Jérôme Fourquet, c'est aussi que l'arrosoir à millions, ça suffit pas. Alors, à milliard même, parce qu'il y en a eu 17. L'arrosoir à milliard, ça suffit pas.
Alors, deux choses. La première, vous avez dit, c'est un volume quand même très conséquent de 7 milliards, mais sur différentes politiques publiques, et donc qui a été saupoudré sur différentes catégories de la population. Donc beaucoup de gens qui légitimement s'estimaient devoir recevoir quelque chose estiment peut-être que le compte n'y est pas. Et puis deuxièmement...
Et calibré quand même, sur les classes moyennes inférieures.
Voilà, mais manifestement, il y a un certain nombre de personnes qui s'y retrouvent pas. Et puis, ce qui a été dit par monsieur le maire à l'instant, il y a une question d'aménagement du territoire, et puis plus profondément, une question de dignité. Hein, ce mouvement des Gilets jaunes, c'est aussi des catégories de la population qui étaient éloignées de la politique et qui se sont remises en mouvement, remises en marche, parce qu'ils estimaient qu'ils n'étaient pas représentés, qu'ils étaient avec tous les problèmes que ça pose. On a vu que ce que dit Jean, c'est que le mouvement n'a pas su se structurer, se trouver des leaders, et qu'on est un peu, si on ferait une comparaison historique, comme dans une jacquerie. Hein, c'est-à-dire qu'on prend d'assaut le château.
C'était le mot qu'on employait à l'époque, d'ailleurs.
Voilà, et la jacquerie, souvent, ne débouchait sur pas grand-chose. Donc maintenant, il y a le débouché politique, comment on le construit derrière.
Et alors, au fond, moi, je reviens à ce que disait Annie tout à l'heure, pour rebondir sur ce que disait Jérôme Fourquet, Yvan Lubraneski, elle parlait de sincérité, elle disait « ça fait un an que je vis ». Au fond, ce qu'ils disent tous, ils parlent pas de ce qui a pu se passer avec ces fameux 17 milliards, parce qu'en effet, pour l'instant, c'est très très compliqué de voir qui a reçu quoi et en quoi ça aide des gens qui étaient sur les ronds-points ou ailleurs, mais c'est l'idée d'avoir vécu quelque chose de particulier pendant toute une année, et ça, aujourd'hui encore, ça persiste en fait.
Oui, parce que ce sont des liens qui ont pu se recréer entre des personnes qui s'ignoraient avant. Et dans une société où on est beaucoup les uns et les autres, le dos tourné au lieu d'avoir des liens. Et justement, moi, un vrai regret que j'ai, parce qu'on s'était vu effectivement dans des émissions il y a un an de cela... En termes de débouchés politiques, on se disait, il y a les municipales qui vont arriver, ça a motivé chez certains.
Et vous disiez même, vous d'ailleurs, allez-y, venez nous chercher, nous, voilà. Dans les municipalités.
Exactement, et en disant, surtout, plus la commune est petite, plus un engagement peut prendre sens rapidement, on peut très rapidement se connaître, apprendre à se connaître, et puis travailler sur des projets ensemble. En tout cas, dans beaucoup de villages, c'est possible, et les questions politiciennes sont souvent quand même laissées de côté. C'est le cas d'Annie, puisqu'elle appelait des Cévennes, elle disait d'un village, et j'étais étonné que dans son propos, elle ne parle pas de ce qui est en train de se préparer, peut-être, pour les municipales, parce qu'il y a une possibilité de se réapproprier justement une partie de son destin localement, et ça manque un petit peu dans ce mouvement qui reste assez revendicatif.
Yael Gauze, un rejet de tout le politique, juste un mot avant de vous intervenir, il y a eu des tentatives pendant les européennes qui ont échoué, intégralement. Mais les municipales, il a raison, Yvan Lubraneski, c'est tout à fait une autre mayonnaise, une élection municipale. Ouais, si on veut chez soi, à côté de son rond-point, pour le coup, non ?
Rappelons quand même les européennes, les deux tentatives, donc Christophe Chalençon, Francis Lalanne, à 0,5 et 0,1% des voix. Et il y a eu un sondage IFOP fait aux européennes sur les Français qui se sentaient proches des Gilets jaunes. Sur 100 personnes interrogées, 44 ont voté Rassemblement National, ont voté Marine Le Pen. Aujourd'hui... Parmi ceux qui sont les votés, ce qui est déjà un taux encore plus réduit. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, le mouvement qui a le plus capitalisé, ou qui espère le plus capitaliser sur ce mouvement des Gilets jaunes, il faudra surveiller comment Marine Le Pen se comporte sur le 5 décembre avec les grèves dans les transports publics, c'est Marine Le Pen. C'est le Rassemblement National qui, aujourd'hui, cherche à capter au maximum ce vote-là. Vous avez d'anciens leaders aussi Gilets jaunes comme Benjamin Cauchy, lui, il sera candidat sur une liste Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan aux prochaines municipales. Donc l'organisation autonome en tant que telle des Gilets jaunes, elle n'existe pas. Le débouché politique concret des Gilets jaunes aujourd'hui est inexistant.
Jérôme Fourquet, là-dessus, il y a quelques tentatives de s'allier. Il y en a du côté de Commercy, on en a vu d'autres dans les journaux récemment, de s'allier pour ces municipales. Moi, je suis quand même étonnée, au fond, que ça marche pas mieux, ces rassemblements-là, pour des élections municipales qui, par essence, sont vraiment celles où on peut commencer à agir sur les strates du bas pour éventuellement monter après. Mais,
alors, c'est ce que disait comme monsieur le maire, c'est compliqué. Alors, on rappelle quand même que monter une liste municipale, il faut être plusieurs. Il y a la question de la parité. Et donc souvent les gens qui se sont retrouvés sur les ronds-points sont de la même région, mais pas forcément de la même commune. Et donc il y a aussi ensuite toute une difficulté à vouloir vraiment s'engager. Ce qu'on entendait d'Annie tout à l'heure, ils ont énormément réfléchi sur toute une série de sujets. Et puis quand il faut passer entre guillemets aux travaux pratiques, eh bien là on voit que ça coince. Ce mouvement n'a pas su non plus en interne faire émerger soit des leaders, soit des modes d'action, de régulation. Dès qu'une tête a dépassé ou émergé, on a été coupé. Et tout ça aussi s'explique par le très fort ressentiment à l'égard des représentants politiques. Ils continuent de nous mentir, ils continuent d'en faire qu'à leur tête, etc., etc. Et tant qu'on reste dans cette posture-là, eh bien c'est compliqué de construire.
Et on y est toujours, visiblement, si on en croit les gens qui nous appellent dans cette posture-là, ça c'est pas purgé. Bonsoir Patricia.
Oui, bonsoir. Allez-y. Bonsoir tout le monde de la part d'une gilet jaune. Alors, après un an de gilet jaune, les casses sociales avancent de plus en plus vite. Baisse des indemnités et chômage drastique, vote pour le déficit systématique de la Sécu, retraite par points. Il nous faut absolument arrêter ces casses. Mais la répression violente et judiciaire est telle que les actions des gilets jaunes est de moins en moins possible. Alors, les syndicats doivent prendre le relais. Cependant, les salariés ne peuvent pas prendre le risque de se faire licencier avec le nouveau barème du licenciement abusif. Il n'y a plus de grosses grèves en France. Donc, les syndicats doivent offrir d'autres manières non violentes d'agir. Donc, que je demande. Et puis il n'y a pas que les salariés qui veulent bouger. Il y a aussi les chômeurs, les retraités, les gens qui ne peuvent pas faire grève.
Et donc, alors Patricia, et pardon de vous interrompre, mais alors j'imagine que si certains gilets jaunes ou ex-gilets jaunes vous entendent, ils sont debout sur leur siège en train d'agiter les bras parce que Jérôme Fourquet, les syndicats, les politiques, en tout cas à ce moment-là, même combat, et que la convergence entre syndicats et gilets jaunes, de toute façon, ne s'est jamais faite. Même il y a quelques mois de ça, même au plus fort du mouvement. Oui, c'est à vous que je parlais, pardon. Je vous appelais différemment?
Non.
Ah, pardon.
Oui, alors on voit qu'aujourd'hui, c'est peut-être en train de changer justement dans la perspective du 5 décembre, puisque c'est la réforme des retraites et que différents intervenants ont mentionné la question de la politique sociale plus globale qui était menée, mais ça continue. Effectivement.
Mais je trouve ça intéressant, cet appel au syndicat. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas entendu il y a 6 mois, en fait.
Et on voit que le mouvement, c'est quelque part un peu politisé. Il y a des termes qui sont employés sur les services publics, sur la casse, qui sont des termes qu'on emploie dans d'autres sénats qui sont plus proches des syndicats. Et toute la question, c'est de voir si le public des Gilets jaunes, qui était très distant, même quand on regardait les parcours de manifestation, c'était pas du tout des parcours de manifestation traditionnels. Mmh. Quand on regardait le jour qui était choisi, un samedi, on fait pas grève un samedi en France, tout ça montrait que culturellement, c'était des mondes qui sont très différents. Peut-être que le 5 décembre, ces deux univers vont commencer à se rencontrer, à se croiser.
Parce que c'était pas un mouvement de grève au moment des Gilets jaunes, c'est pour ça que c'était le samedi, effectivement. Voilà. C'était je travaille la semaine et je suis sur les ronds-points dans les manifestations de samedi. Yaël, rapidement avant de retourner au standard.
Non, mais au gouvernement, on craint une gilet-jaunisation, l'expression est utilisée par certains, du mouvement social, quelque part. C'est-à-dire que c'est pas forcément quelque chose qui est contrôlé aussi par les syndicats aujourd'hui. Regardez à la SNCF ce qui se passe chez Sud, notamment. Ce sont aussi des grèves sauvages, diront certains, un droit de retrait. En tout cas, ce sont des choses qui ne sont pas forcément édictées, voulues par les syndicats, qui courent après le mouvement spontané. Donc il y a gilets jaunes. Pour le gouvernement, c'est compliqué d'avoir un interlocuteur stable comme un syndicat classique. Mais pour les syndicats aussi, c'est compliqué d'avoir une base aujourd'hui, gérée classiquement par le syndicat. Beaucoup de choses échappent. Ce phénomène de gilet jaunisation transpire à tous les niveaux.
Voici François, tiens, qui nous appelle de l'Essonne. Bonsoir François.
Oui, voilà, notre président a participé à de nombreux débats au moment des manifestations des Gilets jaunes. Toute la presse a salué les performances athlétiques de notre président qui pouvait débattre pendant 3 heures en manche de chemise. Mais au-delà de cette opération de communication, sur quoi, je voudrais avoir un peu le sentiment de vous inviter, sur quoi ont débouché ces grands débats en termes de propositions concrètes. Quand on voit aujourd'hui qu'il y a la loi qui se prépare sur les indemnités de chômage qui vont durcir les possibilité de s'inscrire au chômage alors que le chômage est toujours très important, qu'on a la loi sur les retraites qui va être une catastrophe pour un grand nombre d'entre nous, et qu'en face nous avons les entreprises du CAC 40 qui augmentent leurs bénéfices chaque année sans que cela se traduise en termes de création d'emplois, et que par ailleurs le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté est passé de 8,9 millions en 2017 à 9,3 millions en 2018, et selon l'INSEE, il s'agit de la plus forte hausse depuis 8 ans.
Voilà, merci, je voudrais avoir. Merci pour votre intervention, votre question. Yvan Lubraneski, qu'est-ce qui s'est passé après les grands débats chez vous, par exemple? Est-ce que vous avez le sentiment que ce que vous avez recueilli chez les gens a pu être porté après, vous, le maire, ou pas?
On a eu beaucoup de discours. En fait, c'est concrètement, c'est pour ça qu'il faut comprendre que la question des causes de ces phénomènes de revendication, de jacquerie, comme vous disiez tout à l'heure, ces causes n'ont absolument pas disparu. Vous voyez bien dans toutes les interventions qu'on vient d'avoir au téléphone, de personnes qui ont conscience que la production de lois aujourd'hui amène plutôt une régression sociale. Il ne voit pas vraiment d'avancée, donc c'est plutôt de nature à mettre de l'huile sur le feu. Et après, du point de vue des élus, je veux dire quelque chose, c'est qu'on a vu sortir une loi, notamment projet de loi engagement et proximité. Nous, on l'a quasiment appelé presque une loi gilet jaune, parce que elle était absolument pas prévue avant le mouvement. Et elle est venue pour essayer de calmer dans les territoires les élus, les maires, les conseils municipaux, municipaux en pensant que derrière, ils allaient aussi apaiser la population et leur donner des issues plus intéressantes. Or, cette loi, effectivement, ça commence plutôt bien. Au Sénat, elle est, il y a quelques semaines, quelques jours, votée avec des amendements qui font bien avancer les choses quand même pour pouvoir redonner un peu de souffle aux communes et qu'elles puissent travailler en lien avec leurs citoyens, etc. C'est voté à l'unanimité moins deux voix, deux personnes qui ont dû taper à côté. Et là, à l'Assemblée nationale, cette semaine, ils sont en train, ils ont jusqu'à jeudi soir, et ils mettent quasiment que des amendements pour supprimer les amendements qui ont été mis au Sénat et qui permettaient d'améliorer cette loi. Donc, y compris nous, je peux vous le dire, sans trop m'engager par rapport à tout le réseau des maires ruraux de France, mais ils auront l'occasion de s'exprimer dans les jours qui viennent, nous aussi, on va commencer à se fâcher tout rouge à nouveau.
Ah, mais oui. Et à nouveau, à aller demander, parce que notre auditeur parlait tout à l'heure de Emmanuel Macron qui peut, en bras de chemise, parler pendant 3 heures, c'était devant vous. L'une des plus grandes réunions, si je ne m'abuse, ça n'avait pas duré 3 heures, ça en a Bourg duré 6 ou 9, hein, je ne me souviens plus. Et c'était devant vous aussi une manière d'essayer de dire aux maires de France, non mais attendez, oups, j'ai entendu. Visiblement, il manque des choses. Yael Gauss d'abord.
Il y a un immense paradoxe, il y a un côté assez, assez déprimant, un peu sisyphe, tonnonné d'Anaïde pour le gouvernement en ce moment, c'est que il y a ce paradoxe entre une économie qui va plutôt pas mal par rapport à nos voisins européens, une croissance qui est là, un chômage qui recule, et une société qui reste profondément déprimée ou dépressive. Ça, c'est ce que on a constaté dans une enquête Ipsos Fracture française mi-septembre, où il y a même une défiance généralisée, le pays en déclin, le nombre de Français qui le disent augmente, ceux qui font confiance à autrui, 21% seulement des Français font confiance à autrui, juste faire confiance. Et à tous les niveaux, à tous les échelons institutionnels, on retrouve cette défiance. Alors que globalement, au niveau macro, les chiffres sont plutôt bons. Ce qui montre bien l'énorme malaise, c'est-à-dire que ça ne parle pas individuellement, les réformes ne parlent pas individuellement aux Français. Alors qu'il y a des heures sup défiscalisées, de la prime d'activité, qu'il y a eu des coups de pouce, une baisse d'impôts pour les classes moyennes, centrées sur les classes moyennes, 5 milliards quand même qui sont votés là cet automne. Donc il y a un paradoxe micro-macro qui continue.
Il y a une question quand même qui manque, c'est la question de la proximité. Et qu'en fait, là justement, les élections municipales pourraient être un moment, et c'est souvent identifié, y compris, je sais, parce qu'on a des discussions aussi avec les ministères, etc., sur la question de comment on apprend à vivre ensemble, je dirais presque à revivre ensemble. Mmh. Hein, et c'était aussi tout à l'heure la question du lien qui était là. Mais c'est pas par commencer à refaire ensemble, et à faire et à produire des actions ensemble.
Il y a des tentatives, regardez la convention climat pour le change, travailler sur la transition écologique avec 150 citoyens qui ressortent. On en parle très peu, mais elle bosse depuis. On en parle à France Inter, mais depuis un mois maintenant, ça a commencé, ça finira en janvier. C'est peut-être pas grand-chose, mais c'était une des conséquences du mouvement des Gilets jaunes, d'aller chercher une démocratie différente.
Mais la municipale, c'est 35 000 possibilités de faire aussi ensemble. Oui. Ah oui. Et c'est ça que je veux dire.
Et moi, je suis assez épatée quand j'entends les gens qui nous appellent. Au fond, on est dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils revendiquent aujourd'hui. Je vois passer la défense du service public, je vois passer la réforme de l'assurance chômage, etc. Autant de choses qu'on n'entendait pas, en fait, pendant le mouvement des Gilets jaunes, comme si on s'était, au fond, éloigné, Jérôme Fourquet, de ce qui en faisait le terreau à ce moment-là. Mais le terreau est beaucoup plus général que ça, et c'est pour ça que les gens sont là sur les choses très concrètes qui sont en train de se passer aujourd'hui.
Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas forcément exactement les mêmes publics aujourd'hui et hier. Mm-hmm. On avait un mouvement contre la taxe, beaucoup d'automobilistes, des professions indépendantes, des salariés. Aujourd'hui, c'est un peu différent, c'est une tonalité plus sociale, comme vous l'avez rappelé, sur notre modèle de protection sociale, les services publics. Mais ça se politise aussi davantage. Mm-hmm. Et il faut pas oublier que même si Emmanuel Macron a repris quelques couleurs sondagières et que sa liste a fini pas si mal aux élections européennes, il y a toujours 2/3 de Français qui sont mécontents. Et que cette insatisfaction vis-à-vis du pouvoir et ce procès aussi en une forme de duplicité. On disait, voilà, ils sont bons dans la com, mais on voit bien que les lois qui passent les unes après les autres détricotent notre modèle social. Cette musique-là est toujours extrêmement présente et elle peut permettre de fédérer. Encore une fois, je reviens sur la question des retraites qui va toucher tout le monde.
David nous appelle au 01 45 24 7000. Bonsoir David.
Oui, bonsoir.
Bienvenue sur France Inter.
Merci de prendre mon intervention. Merci aux intervenants sur le plateau. Ce que je voulais dire, c'est que chacun d'entre nous, citoyens, on a une part d'ADN gilet jaune, hein, il ne faut pas l'oublier. Quand je regarde les quatre grands thèmes que M. Macron avait lancés au moment du mouvement, il s'agissait de transition écologique, de fiscalité, de démocratie et citoyenneté, organisation de l'État et des services publics. Moi, j'habite un tout petit village dans le sud de l'Indre, dans le sud Berry. J'ai participé aussi à la 7e édition à Bourges d'une manifestation qui avait un peu dégénéré en violence, bien évidemment, on l'a vu un peu partout. Mais ce que je voulais dire, c'est que un an après, et puis je suis aussi un des organisateurs d'un débat citoyen, chez moi, à la maison, il y avait une vingtaine de personnes, donc j'ai dépensé de l'énergie à faire un résumé, un compte-rendu que j'ai déposé sur la plateforme. On a créé aussi un groupe Facebook qui s'appelait Assemblée citoyenne locale, qui regroupait les 21 communes au niveau du territoire. Mmh. Il y a eu quelques réunions, on a eu des effectifs de 80 participants à peu près, et puis les choses se sont un peu estompées, puis j'ai l'impression qu'il y a un peu une résignation, mais les problèmes sont pas résolus, bien évidemment, hein. Les causes n'ont pas disparu, on observe bien évidemment une régression sociale, le tarif de l'essence qui avait débouché sur les manifestations n'a pas beaucoup évolué, c'est à peu près le même tarif que l'année dernière. Les services publics, moi je suis sur un axe, l'axe Paris-Toulouse, la gare d'Argenton, il y a de moins en moins d'arrêts de train, donc des gens ont des difficultés pour se déplacer. Pour ce qui concerne les services publics, bien évidemment, on voit au fur et à mesure dans les zones rurales qu'ils disparaissent. La démocratie participative citoyenne, on l'attend toujours. Il faut bien. Alors, Monsieur François, tout à l'heure, je ne sais plus quel était son. Oui, je crois qu'il fait partie des maires ruraux de France. Parlait d'un projet de loi engagement et proximité, bien évidemment, mais qui a été retoqué, qui traîne, etc., mais qui n'est pas appliqué. Mais au niveau local, il y a déjà beaucoup, beaucoup de choses à faire. Il va y avoir des élections municipales. Au mois de mars,
c'est exactement
prochain.
Ce qu'il disait notre ami François, qui s'appelle Yvan.
Oui, mais les maires, les élus locaux qui sont qui soi-disant doivent représenter les citoyens peuvent déjà proposer des choses, ouvrir bien évidemment des discussions sur l'évolution de leurs décisions au niveau local. Mais les gilets jaunes ont eu une démarche un peu, à mon avis, un peu paradoxale, c'est-à-dire qu'ils ont réclamé beaucoup de choses au niveau national, au niveau du gouvernement, mais déjà ici localement, les représentants de l'État, on peut les interloquer, on peut leur demander un certain nombre de choses, parce que le tarif de l'eau, par exemple, qui fait partie du pouvoir d'achat, ou la taxe locale d'habitation ou de foncière, elle est prise ici, les décisions sont prises ici par des collectivités. Donc, à quoi ça sert de réclamer au niveau national?
Merci.
C'est loin, Paris, pour nous.
Merci beaucoup, David. Moi, je suis toujours très impressionné à chaque fois qu'on fait un téléphone autour de cette question. Non seulement il y a beaucoup de gens qui appellent, mais surtout des choses extrêmement précises, comme ce que dit David, et des choses qui sont longues aussi, qui disent, là, ce que j'entends, Yvan Lubranevski, c'est on a essayé, on a fait ce qu'on a pu, on a fait ce qu'on nous a demandé de faire, de nous réunir, etc. Et puis derrière, compliqué. Alors vous diriez, la marche suivante, c'est d'avoir une inscription sur une liste électorale ou une chose de ce genre-là, mais on le sent chez chacun, une espèce de nous on a essayé, mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui?
Il faut aller plus loin. Nous, on est allé plus loin. On a fait un appel à quelques maires, hein, qui s'appelle Des communes et des citoyens. On a fait cet appel il y a déjà 8 mois maintenant, et vraiment pour inviter les uns et les autres à s'impliquer. Alors, monsieur parlait à l'instant de comment on associe les citoyens aux prises de décision. Dans mon village, on a carrément voté à un moment donné une constitution municipale pour graver dans le marbre comment on associe et aujourd'hui plein de modèles de constitution municipale ou de charte municipale sont en train de circuler ici ou là. Après, ça me fait penser à une auditrice aussi qu'on avait eu il y a un an au téléphone, vous le disiez tout à l'heure, où j'avais eu cette phrase de dire si votre commune, vous avez l'impression qu'elle n'accueille pas votre participation citoyenne à la vie, et surtout quand c'est un village, c'est encore plus simple, eh bien, allez-y, faites-le vous-même, allez-y, c'est pas si difficile, et c'est pas le fait de créer une liste gilet jaune, c'est simplement de créer une liste, en tout cas un collectif, avec des gens qui ont envie de faire de la politique autrement, de se réunir, de réunir les bonnes volontés, de sortir, voilà, je dis pas qu'il n'y a pas, dans certains villages ou dans certaines communes, des vrais verrous politiques qui sont posées. Par contre, il y a des endroits où c'est ouvert. Là, il faut y aller. Les invitations sont quand même presque pressantes. Et les endroits où c'est fermé, c'est le moment d'y aller. Et plus la taille de la commune est petite, plus ce sera simple.
Jérôme Fourquet, le RIC n'existe pas, le fameux référendum d'initiative citoyenne, mais il peut exister à certaines échelles, en effet.
Alors ça peut, mais ce qu'on voit en fait là, c'est plus globalement, si on essaie de synthétiser, c'est la question du débouché politique. Ouais. C'est comment on passe à l'étape d'après. Et donc on voit peut-être que les Gilets jaunes sont en train de toucher du doigt le fait que si la forme parti politique est très fortement décrié et rejeté, la capacité à porter un programme, à s'implanter sur le territoire, à faire émerger des propositions et des leaders, eh ben, on n'a rien trouvé de mieux jusqu'à présent
que la démocratie
pour faire fonctionner tout cela. Et donc, c'est peut-être ça qui va être touché du doigt progressivement.
Nathalie, c'est vous la dernière, mais vous êtes la bienvenue quand même. Bonsoir à vous.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Je me permets de vous appeler parce que c'est vrai que tout ce qui a été dit résonne énormément pour moi. Je m'y retrouve beaucoup. Je vais rester sur l'idée de départ de mon appel qui est que moi, le mouvement de l'année dernière m'a fait prendre conscience que je fais partie des travailleurs pauvres. Alors qu'au départ, quand j'ai commencé ma carrière de prof des écoles, j'avais l'impression que j'étais privilégiée. Et finalement, mes fins de mois sont compliquées. Je vis dans un endroit qui me permet de vivre avec une maison et mes deux enfants parce que c'est un lieu sinistré qui est le couloir de la pauvreté en Gironde. Et j'ai été en fait décomplexée, c'est-à-dire que j'ai appris à parler de mes problèmes de fin de mois. Mmh. J'ai appris à demander des aides aux allocations familiales alors qu'avant, jamais ça ne serait venu à l'esprit.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Nathalie. C'est une jolie conclusion, Jérôme Fourquet, le témoignage de Nathalie, je trouve, en fait.
Oui, tout à fait. C'est pas anecdotique non plus qu'elle nous appelle de Gironde, mm-hmm. qui a été un des épicentres de cette crise des Gilets jaunes, avec, à côté de Bordeaux, la grande métropole, des territoires, la Gironde périphérique, ce fameux couloir de la pauvreté, qui cumule un certain nombre de handicaps et de difficultés.
Je vous avais interrompu, Yaël, tout à l'heure. Vous me faisiez des grands signes, je suis désolé.
Ah oui, des grands signes, c'est qu'on voit aujourd'hui à quel point le gouvernement craint cette possible coagulation ou convergence. Et vous avez un fait très marquant aujourd'hui, c'est le retrait d'un projet de loi qui devait arriver en Conseil des ministres demain sur le travail de nuit, les heures entre 21h et minuit.
Bien sûr.
Eh bien, ça s'est retiré. Ça va faire l'objet d'une grande concertation.
On allait en faire un téléphone
sonne,
figurez-vous.
Et oui, mais ça, c'est un signe. Ça, c'est un signe de pointillé de ce qui peut se profiler d'ici le 5 décembre et la vigilance extrême du gouvernement à l'égard de cette nouvelle forme de gilets jaunes. Est-ce que ce sont vraiment des gilets jaunes ou est-ce que c'est finalement le mouvement social classique qui reprend? Là, j'ai pas la réponse. La poule et l'œuf ou l'œuf et la poule, je sais pas là.
Eh ben, attendons de voir ce qui va se passer effectivement le 5 décembre et peut-être après. Et, Yvan Lubrin, est-ce qu'on a compris que le message, le vôtre, c'était engagez-vous. En gros, engagez-vous dans les petites municipalités, engagez-vous dans les endroits comme les autres. Vous êtes prêt à mettre votre place en jeu, vous, visiblement. Non,
mais oui, bien sûr. Ah, c'est ce qu'on fait. Mais effectivement, je ne nie pas et je regarde comme tout observateur ce qui se passe au niveau national, mais là oui, faire ensemble au niveau de la commune, voilà une occasion avec les élections municipales. Donc allez-y, il n'est pas trop tard. Surtout plus votre commune est petite, plus vous avez de chances de pouvoir travailler dans les semaines qui viennent pour préparer cette échéance.
Allez, faire ensemble, c'est aussi ce qu'on fait au téléphone sonne. Merci à tous encore une fois, merci pour vos nombreux appels. Portez-vous bien.